Bienvenue dans Sésame. Je suis Caroline Verdier et je vais à la rencontre de personnes qui osent vivre leur vérité hors des chemins tout tracés. Qui sont-elles? Que vivent-elles? Ou que lisent-elles? Salut à toi, chers auditeurs et chères auditrices, merci d'être là. Et leurs histoires, comment vont-elles résonner pour toi? Pour le savoir, écoute Sésame et ouvre-toi.
Vas-y, je vais revenir sur comment je t'ai rencontré. Je trouvais ça bien. Oui. Que je t'ai rencontré pendant un stage et puis que je sais plus comment on en a discuté, mais on avait discuté justement de divorce, que j'étais divorcée toi aussi, et avec des enfants. Et que tu m'avais dit que tu avais un setup un peu particulier sur comment vous viviez, vous, en famille, avec le divorce, enfin, avec la séparation. Et c'est peu commun. Moi, je trouve ça juste génial, en fait, de voir des gens qui arrivent à créer des nouveaux modèles de vie. Et donc, quand j'ai eu l'idée du podcast, ça rapidement t'a été dans les premiers que je me suis dit que j'ai voulu venir interviewer, justement dans cette idée de montrer des alternatives de façon de vivre à tout le monde. Donc, je suis super contente d'être là.
Merci.
Et comme je te disais, avant d'en arriver au setup existant, je voulais remonter un petit peu en arrière et te demander quel petit garçon tu étais, c'était quoi tes rêves, tes activités, tes souvenirs, qu'est-ce que tu as de ce petit garçon?
Alors, mon souvenir, hein, c'est des bons souvenirs. Et j'étais un petit garçon qui était en couple avec un jumeau. Donc je le dis comme ça parce qu'on était assez inséparables, un faux jumeau. 7 minutes de différence, mais on était habillés au début la même chose, etc. Après, j'avais un frère aîné et une sœur aînée, un frère de 3 ans de plus et une sœur de 7 ans de plus. Mes parents étaient anglais, ils avaient fui un petit peu l'Angleterre dévastée après la guerre, et venus dans cet endroit ici en Suisse, donc c'était sympa. Ils étaient occupés, ils travaillaient, c'était vraiment l'après-guerre. Je pense que j'étais un enfant qui jouait beaucoup, très naïf. J'avais des éclats de joie comme ça, mais quand j'étais blessé, j'étais très triste. Très sensible, j'imagine. Et puis, avec beaucoup d'idéaux. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, après, j'ai développé un peu plus loin, j'ai développé des passions, des choses différentes, quoi. Mais ce que je vois, c'était que très tôt, quand j'étais vraiment jeune ado, je me rappelle, je voulais plus prendre de médicaments. Donc ça, je sais pas d'où ça venait, mais j'ai essayé. Et puis après, je voulais me guérir qu'avec les vitamines. Puis à l'époque, c'était rudimentaire ce qu'on avait comme connaissance. Mais j'avais déjà cette sorte d'intuition de faire les choses autrement. Je pensais que c'était important. Puisque j'étais anglais en Suisse et que j'étais un sale anglish, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous les autres étrangers. Donc, j'étais fier d'être anglais différent et je voulais être absolument différent. Et puis aussi ce garçon qui était petit mais qui est devenu un peu plus grand, il faisait du brodage en classe où je provoquais un peu tout le monde parce que j'étais assez dans le féminin. Et j'assumais ça assez bien. Je pense que j'avais pas mal de doutes sur le côté homme, garçon, homme si on veut, mais j'étais très fin, très porté sur la poésie, sur les chansons. J'avais tout un monde secret, ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait, pas mal de chansons. J'ai beaucoup, c'était un peu ma thérapie à moi. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de chansons. J'ai tout enregistré. Donc, j'avais ce monde secret. Puis, je partageais avec une ou deux amies, amis, voilà. Alors, ça, c'est le petit garçon.
Et grandir, être un petit garçon avec un côté peut-être comme ça, un peu plus assumé, féminin, c'était quelque chose de facile? Pour toi, oui. C'était naturel.
Ah, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas si je suis d'une extrême arrogance ou d'une confiance, hein, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que quand on me disait ça l'anglais, je me disais, mais attends, je suis anglais, moi. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, parce que les anglais, c'est super. Donc, j'avais pas de complexe là-dessus. Et puis, justement, le côté féminin, la pire insulte que j'ai donnée à une femme, et j'en suis désolé, mais je trouve que c'est absolument une histoire super. C'était dans un travail où il y avait une confrontation homme-femme, puis il y avait des batailles de coussins, il y avait vraiment, puis on se gueulait dessus, puis on disait toutes nos vérités, justement pour sortir, extraire tout ça d'une manière qui était finalement assez joyeuse et bienfaisante. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de vérité aussi dans ce qui était dit. Et j'avais trois femmes autour de moi, j'avais mon coussin à la main, et puis je protégeais mon espace, je gardais mon espace. Et puis il y a une femme qui était là, puis qui me regarde, puis qui dit « Ouais, mais toi, t'es une femmelette. » Donc voilà, ce que nous, les hommes, on entend quand même beaucoup, c'est tout de suite attaqué sur notre côté homme. Mm. Et je la regarde et je lui dis « Je suis plus femme que toi. » Et elle est partie, ouais, elle était en choc, et vraiment, je pense que ça l'a touchée. Et pour dire que j'avais aucun problème, moi, à être femmelette ou dans le féminin, si, j'étais complètement dans mes pompes.
Ouais. Ouais.
Donc, cette puissance que j'ai eue de me pencher plus sur le féminin, m'appuyer plus là-dessus, et puis avoir beaucoup d'amis, filles, vraiment, c'était des amitiés, je n'étais pas du tout ambigu. Après, j'avais des petites copines, ça c'était clair. Ben voilà. Alors, je l'ai bien vécu. Ouais, hein, en fait. Puis après, quand au gymnase, je brodais pour énerver les profs, peut-être. Mais aussi, je faisais du vrai brodage. Je faisais plein de choses artistiques. Ouais. J'étais vraiment. Puis, je me suis dit, ah, mais pourquoi je ne fais pas du brodage? Puis, j'avais amené ça. Et puis, c'était sympa, en fait. J'aimais bien.
C'est chouette. Et donc après, qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes études et tout
Alors, j'étais en scientifique, parce que les garçons, ça va en scientifique. Après, je suis allé au gymnase de la cité à Lausanne. Et puis, comme c'était facile pour moi l'école, je faisais vraiment le minimum et je calculais que je passe tout juste. Donc, j'ai passé avec 0 point en trop ou en moins. C'était scientifique, ça. C'était vraiment... Ouais. Je calculais mon coup. J'étais assez fier. Et puis après, j'ai demandé une année de congé. J'ai pris une année de congé pour aller avec un copain avec nos guitares. Puis on a fait 6 mois aux États-Unis. On a fait la route et on a appris plein de chansons, rencontré plein de gens. Et puis ça, c'était vraiment juste magnifique. Après, j'ai pas...
J'allais dire, c'était déjà pas courant à l'époque.
Non. Et puis tous mes copains disaient, non, moi je ferai ça quand j'aurai fini l'uni. Et moi, je me suis dit, non, moi, je veux faire maintenant.
Ah bon, ouais.
Je prenais le risque. Et puis, mes parents m'ont dit, OK, on ne soutient pas, tu dois trouver l'argent par toi-même. J'ai dit, OK, j'ai travaillé à la poste. Et puis, après, on est parti. Puis, c'était vraiment, c'était magnifique. C'était une belle aventure. Et puis, après, quand je suis revenu, je n'ai pas eu le courage de faire que de la musique, parce que c'était mon thème à moi à cette époque-là, assez romantique. Mais je faisais plein de chansons et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une première année d'UDI en sociologie, parce que c'était l'endroit où ça bougeait politiquement et que c'était cool. Et je me suis dit, je ne vais pas m'ennuyer, je le fais ça. Et puis, après, alors, j'ai fait après une année, on a le propédeutique, ça s'appelle comme ça, c'est un examen. Et j'ai fait l'examen, j'ai réussi. Et puis, j'ai demandé une année de congé officiellement, parce que sinon, je perdais la première année. Puis, je suis reparti 8 mois sur la route aux États-Unis. Et là, j'ai rajouté le Mexique, Guatemala, Belize. Je faisais la route, puis j'ai revu des gens, puis j'avais ma guitare, puis c'était une expérience d'apprendre à chanter devant les gens, sortir de ma timidité un peu et faire la route, ce qui était quand même assez audacieux. Il fallait un peu de courage, mais j'étais bien accompagné par je sais pas quoi. Je trouve que tout s'est bien passé, ouais. Et puis après, je suis retourné en sociologie, terminé ça. Et après, mon métier de psychothérapeute, mais d'abord psychocorporel, ça a commencé à peu près dans cette période-là où j'ai commencé à faire des massages. Après, j'ai fait un peu de bioénergie. Puis j'ai vu, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est travailler avec les gens, puis travailler dans la psychologie appliquée.
Ouais.
Alors, j'ai commencé l'UNI, j'ai fait 6 mois de psychologie. C'était très scientifique, ils se moquaient de la psychanalyse, ce qui était peut-être normal et OK, mais je voyais que c'était une autre psychologie de laboratoire. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à faire des formations dans 3 ou 4 continents différents. C'est-à-dire, vraiment, je me suis formé à différents endroits, dans le psychocorporel d'abord, puis après, une formation sérieuse de gestalt-thérapie. Et ça, ça m'a assis dans ma posture de thérapeute parce que j'ai commencé à pouvoir rentrer ce qui est relationnel. C'était pas juste une technique super que j'essayais de donner aux gens, c'était vraiment je peux travailler avec ce qui se passe, avec des gens récalcitrants, des gens résistants. Je peux utiliser ce qui se passe dans la relation pour travailler avec les gens. Dès qu'avant, je travaillais avec ma technique qui était un toucher profond, c'était un massage qui décarpassait les gens, donc c'était intéressant. Ouais. Ça m'a complètement changé mon état de tension, si on veut. Je me suis beaucoup détendu avec cette technique-là. Mais il y a des gens, je ne pouvais pas travailler avec parce qu'ils résistaient, donc j'étais un peu perdu. Tandis qu'avec, quand j'ai fait vraiment cette formation de psychothérapie, ça m'a donné un truc qui a fait que je pouvais travailler avec toutes sortes de gens.
Voilà. Ok, ah, c'est intéressant, de voir que... comment dire, le relationnel, la partie plus, ouais. T'arrives à toucher...
Alors après, on applique des techniques, on a des
moyens. C'est des techniques particulières, ouais. En fait,
mais,
c'est ça.
Mais ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe, quoi. Poser un cadre, déjà, sécure. Ouais. Tout ça, je ne savais pas avant, quoi.
Ouais.
Et puis, pour me payer un peu mes choses à côté, si on veut, j'ai fait éducateur sexuel à la jeunesse, dans les écoles.
D'accord.
Et puis pour les apprentis, mais pendant 3-4 ans j'ai fait ça et c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'étais déjà dans le domaine de la sexualité. Et puis c'était amener des informations et une discussion naturelle, franche, avec les jeunes. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et puis, puis après, je me suis formé et je me suis lancé comme thérapeute psychocorporel. Ça s'appelait l'intégration posturale. À l'époque, c'était une technique. Vraiment corporel, mais c'est pas du massage, c'est un étirement des fascias, des tissus conjonctifs.
D'accord.
Puis les gens, quoi, on change, on n'a pas l'air la même chose, et puis ma voix a changé, ma respiration a été complètement libérée. Quoi. Vraiment, c'est puissant comme technique, c'est une approche, c'est du bodywork, on dit en anglais. Mmh. Et puis, c'était une longue formation, donc j'ai vraiment fait ça bien. Puis après, quand j'ai fait la Gestalt thérapie, ben, ça y est, ça m'a rendu, à mon avis, beaucoup plus professionnel. Okay. Et ça fait 30 et quelques années que je travaille avec ça.
Ouais. Ouais. Et alors, dans la plupart des gens que j'interview, il y a toujours comment dire, ils ont commencé un certain parcours et puis après, tout d'un coup, ils ont un truc un peu plus ordinaire, on va dire, et tout d'un coup, ils changent. Et en fait, toi, dès le départ, t'es allé dans ce côté thérapie, relation avec l'autre.
Oui, mais alors, mes premiers métiers sur le... quand j'ai fini l'uni... Mais déjà avant, je faisais des remplacements, hein, parce qu'on avait le droit, on était assez bien payé pour l'époque, c'était bien, on était bien payé. Ouais. Et puis j'ai fait des fois 3 semaines, 3 mois, ça variait, mais je faisais des remplacements. Finalement, qu'en anglais, mais j'ai tout pris, parce que je prenais tout. Donc même en allemand, alors que j'étais vraiment pas fort en allemand. Mais la géographie, les trucs, l'algie, vraiment des trucs absurdes. Mais les profs, on est profs, et puis voilà. Et puis ça m'a donné du bon argent pour financer quand même les choses parallèles.
Ok.
Et puis après, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, c'était un petit peu risqué, aucune sécurité, mais ça a tenu. Il y a des moments un peu plus difficiles, surtout quand j'ai repris après un autre loyer plus conséquent pour faire un institut, puis c'était un peu plus cher, il fallait que j'assume chaque mois le loyer. Et ce loyer m'a angoissé pendant 2 ans, ou je ne sais pas quoi. Puis enfin, j'ai changé de niveau. Puis là, j'ai commencé à gagner plus.
Ouais.
Mais j'étais indépendant. Puis après, j'ai vu que j'étais très sécure. Parce que quand on est indépendant avec des consultations, des séminaires, des formations, en fait, on a beaucoup d'employeurs. Donc, si on a un employeur qui nous fout dehors, on a tous les autres. Donc, on est très sécure, en fait. J'ai jamais su combien je gagnais. Ça m'a jamais intéressé. Mais après, je devais faire des comptes. Et puis, on me disait... comme ça, mais ça a tenu. Voilà, de nouveau, j'ai senti que j'étais toujours accompagné d'une manière bienveillante. Quoi. J'ai beaucoup donné pour que ça réussisse, mais je pense que j'ai eu aussi ma chance. J'ai eu un profil qui était très engagé, très honnête.
Ouais.
Et puis, ça a pris. Et puis, les gens m'ont fait confiance. Et j'ai pu développer. Des gens m'ont envoyé des gens. Voilà, des choses comme ça.
Ouais. Et donc, à un moment donné, tu rencontres ton ex-femme aujourd'hui.
Voilà.
Pour qu'on en arrive à cette...
Mais je dois avouer que c'était mon 4e couple.
Ouais.
Donc, j'avais eu un couple de 2 ans, de 8 ans, de 5 ans et demi. Et puis là, j'ai rencontré après chaque fois des séparations qui ont duré une année ou deux. Et puis, j'ai rencontré cette femme qui est donc devenue mon ex, mais on a fait presque 12 ans ensemble, avec 2 ans de psychothérapie, de couple à la fin, pour voir si on arrivait à mieux s'entendre ou pas. Puis on a vraiment... Moi, mes parents ont fait 60 ans de mariage et mon père est décédé. Et puis j'ai plein de respect pour eux et c'était vraiment un beau couple. Je sais ça, je l'ai vu. D'ailleurs, ils étaient tellement un beau couple qu'ils s'occupaient beaucoup d'eux. Et puis, moi, le gosse, je comptais pas... On était, à l'époque, on ne s'occupait pas des gosses comme aujourd'hui, on s'en fichait des gosses. Il fallait qu'ils se fassent, on mangeait nos boîtes de raviolis et de flageolets. Vraiment, c'est des trucs C'était, voilà, c'était après-guerre, puis les gosses, on devait s'acclimater, on devait s'adapter. Et puis, qu'est-ce que je disais
Tu disais que tes parents, c'était un beau couple.
Ouais, peut-être c'était un beau couple. Un... Moi, mon lot à moi, je pense, c'est de vivre plusieurs couples dans ma vie. Et puis, donc, c'est tellement précieux, ces relations que j'ai pu vivre. J'ai tellement appris de choses. La première était féministe, et j'ai été... cassé, mais aussi déchiré et ouvert. C'est-à-dire que elle m'a réveillé des choses. Donc je suis sorti de l'adolescence grâce à elle, à mon avis, et j'ai beaucoup appris. J'ai développé une sensibilité par rapport à la relation et autre, d'être en relation avec une femme. Donc j'ai plein de gratitude pour cette première relation. Ça m'a projeté dans la suivante, qui a été une magnifique relation aussi. Et c'était une relation où on a pris le risque d'être un couple ouvert. On a bavé, c'était juste l'horreur. Très honnête, on se disait tout, mais c'était trop. Et puis, on avait un lien très, très profond. C'était juste magnifique. Mais après ça, dans le troisième coup, je me suis dit, non, voilà, j'ai donné. C'est pas ça ma voie. Je préfère approfondir une relation et que ça reste plus simple. Voilà, c'est plus relax. Et puis, donc j'ai fait cette troisième relation qui était un couple pas facile par rapport au deuxième. Mais très confrontant, mais j'ai appris tellement de choses que c'est là-dessus que j'ai développé le processus scolaire sain, si vous voulez, parce qu'il y avait de la colère et tout, puis c'est m'est venu, puis tout à coup j'avais vraiment décentré sur le sujet, et puis j'ai fait, pendant toutes ces années, j'ai fait des séminaires là-dessus, j'ai vraiment développé une approche qui aide beaucoup les gens, on dirait, ça voilà, les groupes se remplissent bien, c'est quelque chose, c'est un bon sujet, qui était un grand malaise dans ma propre vie, mais là voilà, j'ai beaucoup appris. Et puis quand j'ai rencontré mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle était plus raisonnable que moi, elle avait quelque chose d'assez posé. Et puis les deux, on a résisté pendant 6 mois. Voilà. Donc c'est parti avec un petit peu en freinant, ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait. C'est-à-dire que ça donnait une solidité du moment qu'on s'est mis ensemble. On a vraiment pris le temps de se mettre ensemble. Donc ça, c'était beau. Et puis après, on a vu que les enfants arrivaient. Quoi. La première, elle arrivait. Quoi. On a vu que tout à coup, l'histoire d'enfant est venue. Elle m'a jamais demandé, tu veux faire un enfant? Voilà. Puis, donc, mon luxe a été d'accueillir 2 enfants qui sont venus assez naturellement. Après, on a eu de la conscience autour. Donc, on a décidé, on fait plus de protection, des choses comme ça. Mais on était tranquille. Quoi. S'ils viennent, ils viennent. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de... Donc pour moi, j'ai plein de gratitude pour cette relation aussi, parce que j'ai tellement vécu cette aventure de la famille. Et puis à un moment donné, on a vu que nos chemins se séparaient. Et comme ça m'est déjà arrivé dans ma vie, et j'ai trouvé que c'était juste qu'il fallait se séparer. Après coup, moi, j'ai un idéal romantique, je pense, qui fait que je ne vois pas pendant, mais ces femmes sont éclairées. J'ai vu que c'était... Voilà, c'était bien qu'on a bougé pour elles, pour moi... Et puis après, il y a une suite, donc tout va bien, c'est une autre chose. Et puis, la psychothérapie n'a pas aidé. C'était une psychothérapie de couple qui était beaucoup trop centrée sur les problèmes.
Ouais.
Et cette personne, je ne pense pas qu'elle était formée pour travailler sur une reconstruction ou pour un des aménagements, si on veut, elle essaie de soulever les problèmes. Donc ces problèmes prennent tellement de place après un moment que ça a un peu fait exploser les choses. Et puis, puisque j'avais de l'expérience dans la séparation, et je suis un psy, et j'aime bien chercher, quoi. Donc j'ai vraiment, je pense que, encore une fois, j'ai décidé de faire le deuil, et c'était du boulot, parce que j'étais encore très attiré, très ouvert, mais voilà, dans les circonstances, j'ai l'impression que je devais accepter que ça se terminait. Et puis, alors quand j'ai décidé d'accepter au-delà de... ce que je voulais. Ouais. C'est intéressant. Hein.
Ouais. Et le fait qu'il y ait des enfants, c'était différent encore dans ta séparation ?
Ça aussi.
Dans l'acceptation.
Mais je savais que c'était pas une bonne excuse.
Ouais. Tu t'en rendais compte.
Ça, je savais en tant que fille aussi. C'est juste l'horreur quand les parents restent. Ça peut être vraiment terrible pour les enfants quand les parents essaient de rester pour eux. Quoi. C'est vraiment...
Donc ça, tu le sentais aussi. Ouais.
On fait porter quelque chose. Non. Et puis après, le jour où on a annoncé qu'on allait se séparer, les enfants ont dit OK. Puis j'ai dit mais comment OK ? Et puis ils ont dit mais on savait. Et puis, vous faites comme vous voulez, c'est OK, quoi.
Ouais.
Et puis, mes enfants ne sont pas spéciaux, mais ils ont vraiment eu ils ont dit OK, quoi, ils ont soutenu la situation, il n'y a pas eu de gros drames. Puis nous, on les a beaucoup accompagnés à bien vivre ça. Et Et moi, j'étais déterminé à bien m'entendre. Donc, comme j'ai réussi dans mes autres couples à bien m'entendre, c'est tous des ex-amis, si on veut. Maintenant, c'est des amitiés profondes et très loyales, quelque part. Mais il n'y a rien de sexuellement trouble. Ou, voilà, pour moi, c'est, quand je termine quelque chose, ça se termine vraiment bien. Donc, ça me permet de rester en amitié. Et puis, ce qui est une chance, parce que c'est des gens super, c'est des gens que... qui me connaissent, que je connais, que, voilà, puis qui sont devenus proches des enfants aussi. Donc, c'est, voilà, il y a quelque chose de très joyeux là-dessus. Et puis, ce qui a été très dur, alors pour moi, c'était une révélation, ça, je ne le savais pas, mais je vois d'autres gens souffrir de ça, c'est de faire le deuil du couple. C'était difficile, c'était douloureux, mais je pouvais le faire. Et ça m'a pris un moment, ça m'a pris vraiment un moment, parce que ça, c'était contre ce que je ressentais. Mais je savais qu'il fallait que je parle à mon inconscient et que j'accompagne le mouvement, parce que sinon j'allais souffrir beaucoup plus longtemps. Et puis, mais après j'ai découvert, mais il y a le deuil de la famille, et puis ça, ça a été juste cruel et très dur, très dur. Ça a pris beaucoup plus de temps. Et ça m'a donné des moments de tristesse, puis là j'étais papa seul, avec un appartement où ils avaient chacun leur chambre, je voulais qu'ils soient bien et tout, donc c'était un loyer beaucoup trop cher pour qu'ils soient la moitié du temps là. Ils se bagarraient dans le salon, puis je me dis, mais je fais quoi là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les petits gosses qui se chamaillent? J'ai autre chose à faire dans ma vie. Ça me donnait des désillusions, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et puis je me suis fait, j'étais courageux quand même, je pense, et puis j'ai fait face, et puis c'est devenu quand même meilleur. Il y avait une chose qui est importante, que je trouve qui nous a beaucoup aidé, c'est que j'ai décidé d'habiter, j'ai pris un appartement après la séparation, mais un peu plus tard que mon ex, et puis j'ai pris à 500 mètres de là où elle habitait.
Okay.
Donc pour les enfants, s'ils oubliaient quelque chose, ils pouvaient aller le chercher. S'il fallait juste faire là, ils pouvaient aller à pied. Quoi. Voilà. C'était, pour moi, ça, c'est vraiment une recommandation. Que je ferais, c'est que si on est obligé de se séparer, c'est extraordinaire comme ça simplifie les choses, qu'on n'est pas loin. Il y a une personne en France, j'ai oublié qui, mais c'est Dolto, qui avait déjà dit ça, il paraît, c'est que quand les parents se séparent, ils doivent habiter au moins à moins d'un kilomètre. Quoi. Comme ça, beaucoup de choses sont plus simples. Ouais. Il y a une distance géographique. Voilà. Alors pour moi, nous, on a bien vécu ça, ça c'était bien. Et après, j'ai eu la chance, je continue là.
Oui, vas-y.
J'ai eu la chance de recevoir une certaine somme d'argent de ma famille et j'ai pu acheter un endroit. J'ai tout de suite voulu le mettre parce que j'ai jamais fait de prévoyance dans ma vie. Donc j'ai vécu comme un fou et je me suis amusé tout le temps et dépensé tout l'argent que je pouvais. Et puis avec cet argent, je me suis dit, ok, celui-là, je suis sérieux, je commence à prendre de l'âge. J'investis. Puis j'ai pu trouver une propriété du côté ouest de Lausanne. Je voulais l'autre côté, mais c'est impossible et c'est trop cher. Et puis, c'est une belle propriété avec une vieille maison dedans.
Et dès le départ, c'était ton idée quand, au moment où tu as investi, ouais, hein, c'était ton idée dès le départ de rassembler, en fait,
ouais, avec,
de tous vous rassembler.
Oui, même si c'était douloureux, si c'était triste pour moi la séparation, mon engagement a toujours été d'être très correct avec la mère de mes enfants. Ouais. Donc pour moi, on s'est toujours très bien entendu au niveau de se concerter, de prendre des décisions, etc. Il y a eu des petits machins, mais ça, c'était pas grand-chose parce que moi, j'étais déterminé en tout cas à soutenir ce qui se passe et puis aussi la soutenir elle. C'est-à-dire, c'est la mère de mes enfants, je ne vais pas torpiller la mère de mes enfants.
Et quand tu lui parles de cette idée, parce qu'elle est un peu folle, on peut dire quelque part, ou en tout cas qui n'est pas courante, elle est tout de suite d'accord sur le concept.
Ouais. Et puis, en fait, elle connaissait comme moi depuis moins d'années, mais moi, j'ai connu des gens il y a 25 ans, 30 ans qui ont fait ça, en fait.
Ok.
Et puis, des amis qui ont dit qu'ils voulaient se séparer, mais ils avaient des enfants. Et au moment où ça se passait, le père venait de racheter une femme et rénover la femme. Et dans le réaménagement des appartements et tout, tout d'un coup, la mère, elle vient avec cette idée. Elle a parlé avec son thérapeute, qui était sous lire le tantric.
D'accord, hein. Ouais.
Et puis, il lui dit, mais pourquoi vous ne faites pas un système où les enfants sont au milieu? Puis voilà. Donc, ils ont créé ça. Alors, j'ai vu ça. Je l'ai vu fonctionner. J'étais très proche des deux, surtout d'abord de la maman, parce qu'elle était un peu ma secrétaire. Elle m'a beaucoup aidé pour mes affaires. Puis, j'ai vraiment vu ces deux petits garçons qu'ils avaient. Et puis, des fois, ils étaient chez papa, des fois, ils étaient chez maman. Et pour eux, je leur ai demandé, mais c'était comment pour vous maintenant, avec toutes ces années qui ont passé? Nous, on ne savait pas que ça pouvait être autrement, c'était super. Puis, ils avaient papa, ils avaient maman. Maman et papa avaient plein de copains et copines. Il y avait plein de gens qui circulaient dans cette maison. Ils avaient vraiment le cœur très ouvert et c'était assez joyeux, en fait. Ouais. Et moi, à une époque, j'avais plus de logement, donc j'ai dormi là-haut. C'est-à-dire j'ai vu la vie qu'il y avait. Donc, c'était juste... ça m'a marqué. C'est ça qui m'a, en fait, donné l'idée à moi.
Okay, ouais.
Et puis après, comme mon ex a connu ces gens et on est allé chez eux, puis après, les enfants étaient grands, ils sont partis, mais on a vu un peu vers la fin, quoi. Pour elle, c'était évident aussi qu'on était capable de faire ça, que c'était OK, puis qu'elle allait toujours me soutenir. Et moi, pareil, on a un engagement de se soutenir dans nos vies parce que professionnellement, les deux, on est indépendants.
Ouais.
On s'est aidés parmi. Donc, il y a des choses de cet ordre-là. Et puis, par rapport aux enfants, on savait que si on s'entend pas, ça blessera les enfants. Et puis ça, c'est juste une donnée que les recherches montrent. Ça, c'est moi, en tant que psy, je sais ça. C'est-à-dire qu'une manière de détruire un enfant, c'est justement la mésentente des parents. Les parents ne comprennent pas ça. Moi, je dois dire aussi une information, c'est que c'est confrontant pour les mères, mais les recherches montrent que c'est plus les mères qui disent du mal du conjoint et qui entrent dans des plans de vengeance, mais juste terribles. Et elles peuvent le faire, et on comprend pourquoi elles sont meurtries, c'est peut-être injuste, le mec est un salaud, ouais, on pourrait imaginer tout ça, mais ça blesse gravement les enfants, parce que les enfants sont constitués du père et de la mère. Puis ça, je fais juste un peu de pub là-dessus, c'est-à-dire, je trouve que c'est absolument terrible comment les gens peuvent se séparer. Moi, je les aide à se séparer mieux, c'est une partie de mon boulot, puis je suis thérapeute de couple, mais... il faut que ça se sache, ça, c'est grave pour les enfants quand il y a une mésentente entre les parents, qui doivent fonctionner encore, parce qu'on ne se divorce pas de ses enfants, donc voilà. Alors, on a fait le projet, et puis tout à coup, on a dit, cette vieille maison, qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis, on a dit, mais qui on met au milieu, en haut, en bas? Moi, j'aime bien la vue, je voulais être en haut, mais c'est plus petit, parce que c'est sous le toit. Puis après, j'ai dit, OK, allez, pour une fois, je vais par terre, sur la terre. J'ai beaucoup travaillé sur mon grounding, sur mes racines. Je me suis dit, je vais au rez-de-chaussée, qui est un peu surélevé, donc c'est bien. C'est juste un peu surélevé. Et puis, on met les enfants en sandwich. Comme ça, moi, j'ai une distance avec mon ex, elle aussi.
Oui.
Et les enfants sont bien ceinturés. C'est, on va accompagner comme ça, du haut et du bas. Et puis on a moitié-moitié, c'est toujours 50%, 50%. Ouais. Mais comme ils deviennent ados maintenant, ils sont tellement autonomes, on compte plus, on part quand on veut, on s'arrange. Ouais. Ils adorent qu'on n'est pas là. Quand on n'est pas là, ils vont dans la cuisine, ils font à manger, ils préfèrent ça. Il y a une chambre d'amis, donc ils invitent des gens pour dormir. Donc ça, c'est joyeux.
Ouais.
Voilà.
Et pour eux aussi, hein, c'était une logique, en fait, le projet de vivre comme ça dans le même bâtiment.
Il y a eu un moment où mon fils a dit, mais c'est pas clair, c'est comme si vous n'êtes pas séparés, c'est énervant aussi. À un moment, il a dit quelque chose dans son là, mais ça a vite passé. Je pense que c'était une petite provoque, mais peut-être c'était un ressenti aussi que...
C'est peut-être bizarre des parents séparés qui s'entendent bien.
Voilà. Ouais.
C'est pas commun.
Non, c'est pas commun. Et puis, peut-être ça ne l'arrangeait pas parce que justement, on avait une trop bonne communication.
Je connais un peu ça.
Voilà. Donc, il s'est dit, mais zut, merde, on ne peut pas avoir tout ce C dans ce système-là. Alors, c'est... Voilà, les pauvres enfants. Mais je sais qu'ils sont vachement contents.
Ouais.
Beaucoup de gens nous disent, mais ils vont tellement bien, vos enfants. Et ils n'ont pas eu ce coup dur, si on veut, du choc ou de... Voilà, et ils ont continué d'être bien dans leur peau, dans leurs écoles et tout ça. Donc, moi, je pense que c'était bien. Puis, pour deux psys, des fois, on est les pires. Hein. Il faut que ça se sait, ça, les mal chaussés, etc.
Ouais.
Et ben là, je trouve qu'on s'est bien séparés, on a soigné ça. Et puis, dans la distance qu'on a et qu'on cultive, on a une très bonne relation. Donc, en ce moment, quoi, mais ces années-là ont été... pour l'instant, vraiment idéal.
Ouais.
On peut s'engueuler, mais ça ne dure jamais longtemps. Et puis, ça fait presque rire, parce que ça ressemble à des trucs d'avant, mais ça c'est fini.
Mais c'est pas pareil.
On n'y croit plus. Oui, je disais avant.
Oui.
Et puis de s'énerver toujours sur les mêmes choses pendant toutes ces années, c'est un peu blais, un peu, ouais. Je sais pas comment dire, un peu niais. Donc, mais ça arrive très rarement, ça. Je trouve qu'en gros, on collabore très bien. Voilà.
Alors, bah, je parle de mon expérience, parce que je suis aussi quelqu'un de séparé avec des enfants, mais qui n'a pas cette façon de vivre. Puis nous, on a quelques kilomètres en plus, un peu plus de kilomètres entre nos deux logements. Qui, en effet, je comprends ton idée d'être plus proche, hein, qui facilite les choses. Ouais, ça, je peux comprendre. Bon, on n'est pas si loin que ça, hein, avec mon 50-50 aussi. Les enfants n'ont quand même qu'une seule école. Mais comment est-ce qu'on arrive à... quelque part, ça serait quoi le conseil de... Enfin, le conseil, je ne sais pas, mais en tout cas... Une séparation, ça reste toujours un moment compliqué, je pense, pour des gens. Est-ce que tu sais ce qui fait la différence de dire « Ok, on se sépare, mais on peut continuer à faire quelque chose pour les enfants, à faire quelque chose, à construire quelque chose ensemble ?» À l'intérieur, c'est quoi qui fait qu'on est capable de mettre les enfants en premier, en fait ? Je ne sais pas si tu as réussi à voir ça sur des gens qui t'accompagnent. Qu'est-ce qui fait ça?
Mais là, je fais de nouveau un peu de pub, peut-être, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, mon ex aussi. Et de travailler sur moi, j'ai travaillé sur la colère, donc j'étais pas en colère. Après, j'ai appris la colère projective, c'est-à-dire que je balance ma colère contre l'autre. Après, j'ai vu que ça ne marchait pas, ou que donc j'ai essayé d'apprendre une colère saine. Quand on a décidé la séparation, j'étais triste, j'étais aussi en colère, mais il y a une différence entre... je suis en colère de ce qui se passe, je peux être mal avec elle, mais de prendre du temps et projeter ça contre elle... dans des discussions et tout, je voyais que ça me libérait pas, au contraire. Après, j'étais pas bien, j'ai un arrière-goût. Maintenant, c'est quelqu'un que j'aime, mais que j'ai aimé, que je vais aimer. J'aime pas lui dégueuler dessus, quoi. Alors, pour moi, je sais que j'ai appris, et c'était un travail des fois, de faire la différence entre je peux être en colère, mais je reste correct avec elle. Et ça, c'est un effort, c'est un travail sur moi. Et puis, je l'ai fait. Et puis, imparfaitement, probablement, mais c'est égal. En gros, ça marchait. J'avais mes petits trucs pour vraiment voir, parce que par un moment, je dirais qu'elle était un peu plus coupée de moi. Donc, des fois, c'était un peu froid, c'était un peu dur. Et puis après, à un moment, je sais que. Il y a eu un jour, un moment où j'ai vu quelque chose de notre séparation et je lui faisais peut-être porter trop le chapeau. Et j'ai pu lui dire un truc où je prenais une responsabilité un peu plus marquée parce que peut-être j'avais escamoté un petit bout de ça. Et quand j'ai dit ça, ça y est, tout d'un coup, c'est devenu léger. Et puis, il y avait vraiment un truc qui était simple. Donc, c'était aussi à moi... d'avoir fait le deuil, quoi, c'est-à-dire d'avoir accepté que j'ai pas pu faire mieux et que j'ai. Ça s'est passé comme ça. Donc j'étais peut-être fâché un peu avec moi, j'étais fâché avec la situation, j'étais fâché avec elle. Mais à un moment donné, dans les phases de deuil, si on veut, c'est très simple. C'est une Suissesse, Kubler-Ross, qui a bien donné la cartographie de ça. Donc si on connaît un petit peu ce travail-là, ça nous aide. Donc j'ai eu un moment pour la colère, il y a eu un long moment, quoi, vraiment peut-être 2 ans, je ne sais pas quoi, pour la tristesse, qui a duré un peu plus longtemps pour la famille, mais je veux dire, il y a eu des moments de tristesse, mais moi je vis, j'ai pleuré, je sais que j'ai des amis très très proches, je peux en parler, je suis un homme qui parle, donc j'arrive à me partager ça, donc ça, voilà. Et tout ça, ça m'a aidé, mon réseau d'amis m'a beaucoup soutenu, j'imagine. À leur manière, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop envie d'entendre mes histoires, mais ils étaient là.
Du coup, on dit toujours, quand un couple, quand il arrive à un moment donné où ça ne va pas très bien, on tente une thérapie de couple. Tu as des gens qui viennent te voir genre, pour bien vivre la séparation? Ça existe?
Il y en a qui sont venus avec l'ex. parce que ça se passe mal pour les enfants, puis ils viennent avec leur ex. Et puis ils font
la thérapie de gens déjà séparés.
Qui ont même des nouveaux partenaires, ouais. Mais ils viennent faire une thérapie de couple.
C'est hyper
de
intéressant.
Cet ancien couple, oui, ouais. pour qu'ils voient bien que ça ne se passe pas bien. Et pour les enfants, ils viennent nettoyer certaines choses encore.
Ouais.
Voilà. Donc vraiment, il y a toutes sortes de possibilités là-dessus. Maintenant, dans mon boulot, oui, des fois j'ai aidé des gens à ne pas se séparer parce qu'il suffisait. Il y a tous les couples qui se séparent, il y a souvent énormément de sentiments. Il y a beaucoup de beaux sentiments qu'on n'arrive plus à partager parce que la relation est tellement compliquée, elle est tellement difficile. On a tellement nos vieilles histoires qui viennent réagir avec de la maladresse ou des choses. Voilà. Des fois, on arrive à désenflammer, à calmer le jeu. Quand on calme le jeu, ça, voilà, tout à coup, on se défend moins. Et puis, on peut de nouveau rétablir peut-être quelque chose de plus fluide. Et puis, pour certains, non, ils sont venus pour se mettre ensemble. Et puis, au bout d'un coup, ils ont vu, non, mais je crois qu'on doit se séparer. Et puis, il y en a qui sont venus, ils ont dit, OK, on a décidé de se séparer. Ça vient de se passer, donc on aimerait juste poser des choses, essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'on va peut-être avoir... un autre couple, hein, de nos jours, c'est devenu la norme. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment une démarche courageuse, parce que sincère.
Ouais.
C'est, voilà, ils veulent travailler, ça se travaille, puis le deuil, quand on le travaille, ça se passe mieux, ça dure moins longtemps.
Ouais.
Et puis après, on passe à autre chose. Faire le deuil, ça veut dire passer à autre chose. C'est ça que ça veut dire. Ouais. On fait mourir quelque chose, et cette chose doit mourir, parce qu'elle doit faire de la place pour autre chose. Donc, le souvenir, on l'aura toujours. On peut garder une bonne entente. Quand quelqu'un meurt, on peut vraiment rester avec plein d'amour, de gratitude, on n'oublie pas la personne, mais on a fait le deuil, c'est-à-dire que la charge émotionnelle, on a réussi à la calmer et la dissiper, si on veut, voilà. Puis on passe à autre chose et puis la vie continue.
Ouais. Ouais. Mais quelque part, on a un peu grandi, bah, comme tu disais, avec l'image des gens qui sont restés ensemble 60 ans ou 50 ans, et que la séparation est forcément... Pas forcément, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, que c'était quelque chose de pas bien. Et en fin de compte, on peut bien se séparer. Ça peut être quelque chose...
Il faut que ça se sache.
On peut avoir des belles séparations, je pense.
Il va écrire un livre là-dessus. S'il ne l'écrit pas, c'est moi qui le dirai. Vraiment, je pense que les gens doivent être plus inspirés à comment se séparer bien. Et il y a vraiment, dans les ingrédients, il peut y avoir de la colère, de la tristesse... Quoi, au début, on est perdu, on est confus, on est vraiment dans le choc. Si on veut, il y a des gens, il y en a en tout cas un qui est dans le choc. Des fois, l'autre a prévu ça depuis des mois.
Ouais.
Puis quand c'est mûr, il le dit. Et l'autre a un temps de retard. C'est encore plus violent, ça. C'est juste dégueulasse. Mais bon, les gens font ça. Ils sauvent leur peau. Hein.
Ouais.
Mais ce n'est pas un processus à deux. C'est un qui, tout d'un coup, dit « OK, je pars
».
Et si tout va bien, il ne le dit pas par SMS. Non, mais je dis ça, les gens le font.
Oui, je sais.
Et puis après, dans les autres ingrédients, il y a aussi les leçons. Pour moi, c'est qu'est-ce que j'apprends, quoi. Tout à coup, je réalise des choses. Je vois la pression que j'ai mise sur l'autre, ou j'avais des jugements, ou je ne sais pas quoi. Puis voilà, ça a aussi aidé le processus à un petit peu faire qu'il y avait de la distance et de la défensivité, des choses comme ça, je ne sais pas. Et puis, pour moi, il y a aussi un ingrédient qui peut venir, même pas que à la fin, mais c'est de la gratitude. Ça veut dire vraiment une profonde reconnaissance parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Ce bout de chemin, il y a eu des années, mais juste magnifique. Après, on a de la peine à se séparer. Donc, on a fait aussi un truc un peu compliqué ou un peu douloureux à un moment, un peu glauque des fois, voilà. Et parce qu'on est immatures tous, les psys, pareil. Et puis après... Voilà, voilà.
Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, je voulais justement noter, c'est le fait que tu dises qu'il y a eu, quelque part, tu as eu deux deuils, celui du couple et celui de la famille. Et je l'ai vécu aussi comme ça, je trouvais que vraiment, c'est deux choses différentes, en fait.
C'est deux choses différentes.
Et c'est hyper. Moi, je trouve important, en fait, de savoir qu'on traverse ces deux choses-là et pas forcément à la même vitesse, en fait.
Absolument. Oui, pour moi qui est psy, hein, je ne savais pas, moi.
Ouais.
Donc. J'ai découvert ça parce que
tu l'as expérimenté en fait.
Parce que je ressens plutôt bien les choses. Après, je voyais mais ce qui croche, ce qui est vraiment en travers de ma gorge, c'est je suis tellement triste parce qu'en fait, j'ai pris l'an pour m'ouvrir à ce projet de famille. J'ai commencé à 47 ans, Et puis quand je, voilà, je me lance enfin dans ce truc qui est assez standard. Je crois que je voulais tellement pas recevoir mes parents que j'ai peut-être fait ça. Et puis là, tout d'un coup, enfin, j'entre dans le jeu et tout d'un coup, le jeu s'arrête. C'était très dur pour moi parce que c'était quand même une part de rêve. Et c'était très, moi, j'ai bien vécu la famille. Les quatre, j'ai trouvé que c'était super. J'étais fier, j'étais content. J'étais très créatif, j'étais très disponible. À 47 ans, j'avais beaucoup moins de choses à prouver. J'étais équilibré dans mon boulot, donc je ne travaillais pas trop. Puis comme j'ai beaucoup d'énergie, ben c'est moi qui me levais des fois la nuit, puis je travaillais la journée. Quoi. Vraiment, il y avait un truc que j'ai... Et puis s'il fallait sacrifier une part de ma vie privée, j'avais flambé jusqu'à 47 ans. J'avais pas de problème, j'avais bien vécu ma vie. Je pouvais quand même... pas dormir la nuit un peu, ou mes loisirs, ça sautait, j'avais pas le temps de voir certains amis. Ok, je lâchais, oui, mais j'avais pas besoin, j'étais tellement content de vivre cette aventure.
Ouais, c'est hyper intéressant. On arrive gentiment au bout, puis j'ai deux questions qui sont, que je pose à tout le monde dans le podcast. Donc la première question, c'est est-ce que t'as un livre, ou deux, ou trois, qui t'ont impacté, toi, dans ta vie, des livres que t'as pu lire et qui t'ont laissé... soit qui ont impacté quelque chose pour toi ou qui t'ont laissé un très, très bon souvenir.
Alors, je pense vraiment que ça concerne une grande partie du public, un livre, mais depuis l'âge de... Depuis ado, j'ai fait très gaffe de ne pas trop lire, moi. Parce que je voulais trouver mes propres idées, mes propres philosophies par moi-même. Donc, j'étais vidé de la classe de philosophie au gymnase. Il était furieux, le mec. Et puis, je voulais pas entendre. Parce que
c'est
je voulais
intéressant.
Être pur. Je voulais... Ouais, j'étais un peu bizarre, franchement. Mais ouais. Et puis, alors, il y a ce que j'ai... Le luxe que je me suis offert, et je fais de nouveau un peu de pub, c'est que moi, j'ai eu un maître indien. Mais il a tellement parlé d'une manière inspirante sur le couple, sur... ce que nous sommes, quoi, la vie, les approches différentes, quoi, voilà. Donc ça, c'est tellement un travail sur moi qui m'a bouleversé ma vie. Donc,
c'est voilà, l'enseignement qui t'a transmis.
Après, j'ai travaillé avec un chaman pour qui j'ai plein de respect. Les deux sont décédés, mais ils sont très vivants dans mon cœur. Ils ont des bouquins et tout ça. Le maître indien, c'est Osho. Le chaman, c'est Luis Ansa. Et j'ai tellement appris de choses, mais des choses pratiques, des choses sur la relation, mais sur mon monde intérieur, si on veut. Ouais. Donc tout ça, j'avais pas besoin de beaucoup lire. Ouais. Hein. Franchement, la lecture, ça... Mais alors quand je lis, moi je retiens, je cite des bouquins, des fois que j'ai pas lu, mais on m'a raconté, c'est vivant, j'apprenne très fort. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il y a une capacité d'absorption tellement grande que ça me sature trop vite, hein, un bouquin. C'est trop... Je lis toujours à la fin et je vais en arrière et je prends des bouts. C'est comme ça que je suis... Voilà. Et là, et paf, je capte, et puis il y a des phrases, je tombe dessus, et puis ça m'accompagne, je me souviens de ces phrases-là, parce qu'elles sont inspirantes, elles sont belles, elles sont, c'est comme disait le chaman, c'est la parole qui marche, donc c'est vraiment, elle fait son chemin, elle va plus loin, elle parle aux gens, voilà. Alors moi, je suis riche de plein de phrases de lecture, et puis j'ai la chance d'avoir pris le risque d'établir une relation avec quelqu'un qui est un enseignant, qui est quelqu'un de plus éclairé que moi, et me mettre en position de disciple ou d'ouverture. Puis c'est ça qui est important avec un maître, c'est pas le maître, c'est d'apprendre, c'est d'être dans cette posture, on est prêt à remettre en question, à ouvrir des oreilles qu'on connaissait pas, ou un cœur qu'on connaît mal. Alors, ça c'est mes références. Okay. Ouais. Que je recommande à tout le monde. Pas ces gens-là d'ailleurs, chacun doit trouver son propre maître.
Le principe.
Ouais. Mais le principe, c'est ici on a peur, on a une trouille de ça. On croit qu'on doit donner son argent à sa femme et on sera en brigadé. Et moi, je n'ai tellement pas vécu comme ça. Il y a un côté qui peut être sectaire, mais comme dans les mouvements politiques, comme dans tous les mouvements de pensée, des choses comme ça. Des fois, on est arrogant, on s'identifie, on dit qu'on a trouvé le truc suprême. À part ça, non, c'est rien à voir avec ça.
Le podcast, il s'appelle Sésame. Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Alors, c'est avec ce que je viens de dire à la seconde, c'est que pour moi, Sésame, ouvre-toi, je trouve qu'il y a vraiment Je crois qu'il y a tellement de choses à ouvrir en nous. Très clairement, alors ça je le dis parce que je travaille sur moi depuis toutes ces années, et puis, et puis je travaille avec les gens. Donc je vois qu'est-ce qu'on peut révéler, ouvrir. Donc Sésame, ouvre-toi. Puis bon, c'était une bande de voleurs, mais je pense qu'il faut être un peu bandit, il faut être transgressif, quoi. C'est complètement subversif que de s'intéresser au monde intérieur finalement, et puis de sortir de cette prise en otage, si on veut, de toutes ces addictions possibles qu'on peut créer de nos jours maintenant à l'extérieur de soi. Donc je suis pour. Et puis, voilà, les graines de sésame, il y a moi qui m'inspire, sauf que ça peut être très bon. L'huile de sésame aussi, ça sent fort, mais ça, pour les massages, mais c'est bon. Mais sésame, ouvre-toi, c'est magnifique, c'est juste magnifique, bravo. Bravo, beau titre. Hein.
Merci.
Tu as trouvé un truc super.
Merci, Steven.
Un grand plaisir, merci à toi.
Merci d'avoir écouté Sésame. Si tu as aimé, le mieux est de me le dire avec un commentaire sympa ou des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Et suis-moi sur Facebook aussi pour ne rater aucun épisode. À bientôt.